Lettre 11 de Julie à Saint-Preux.
Il est donc vrai que mon âme n'est pas fermée au plaisir et qu'un sentiment de joie y peut pénétrer encore. Hélas, je croyais depuis ton départ n'être plus sensible qu'à la douleur. Je croyais ne savoir que souffrir loin de toi et je n'imaginais pas même des consolations à ton absence. Ta charmante lettre à ma cousine est venue me désabuser. Je l'ai lue et baisée avec des larmes d'attendrissement. Elle a répandu la fraîcheur d'une douce rosée sur mon cœur séché d'ennui et flétri de tristesse. Et j'ai senti, par la sérénité qui m'en est restée, que tu n'as pas moins d'ascendant de loin que de près sur les affections de ta Julie. Mon ami, quel charme pour moi de te voir reprendre cette vigueur de sentiment qui convient au courage d'un homme. Je t'en estimerais davantage et m'en mépriserai moins de n'avoir pas en tout avili la dignité d'un amour honnête, ni corrompu deux cœurs à la fois. Je te dirai plus, à présent, que nous pouvons parler librement de nos affaires. Ce qui aggravait mon désespoir était de voir que le tien nous ôtait la seule ressource qui pouvait nous rester dans l'usage de tes talents. Tu connais maintenant le digne ami que le ciel t'a donné. Ce ne serait pas trop de ta vie entière pour mériter ses bienfaits. Ce ne sera jamais assez pour réparer l'offense que tu viens de lui faire, et j'espère que tu n'auras plus besoin d'autres leçons pour contenir ton imagination fougueuse. C'est sous les auspices de cet homme respectable que tu vas entrer dans le monde. C'est à l'appui de son crédit, c'est guidé par son expérience, que tu vas tenter de venger le mérite oublié des rigueurs de la fortune. Fais pour lui ce que tu ne ferais pas pour toi. Tâche au moins d'honorer ses bontés en ne les rendant pas inutiles. Vois quelle riante perspective s'offre encore à toi. Vois quel succès tu dois espérer dans une carrière où tout concourt à favoriser ton zèle. Le ciel t'a prodigué ses dons, ton heureux naturel, cultivé par ton goût, t'a doué de tous les talents. À moins de 24 ans, tu joins les grâces de ton âge à la maturité qui dédommage plus tard des progrès des ans. Frutto senile in sul giovenil fiore. L'étude n'a point émoussé ta vivacité, ni appesanti ta personne. La fade galanterie n'a point rétréci ton esprit, ni hébété ta raison. L'ardent amour, en t'inspirant tous les sentiments sublimes dont il est le père, t'a donné cette élévation d'idées et cette justesse de sens qui en sont inséparables. À sa douce chaleur, j'ai vu ton âme déployer ses brillantes facultés, comme une fleur s'ouvre aux rayons du soleil. Tu as à la fois tout ce qui mène à la fortune et tout ce qui la fait mépriser. Il ne te manquait pour obtenir les honneurs du monde que d'y daigner prétendre, et j'espère qu'un objet plus cher à ton cœur te donnera pour eux le zèle dont ils ne sont pas dignes. Ô mon doux ami, tu vas t'éloigner de moi. Ô mon bien-aimé, tu vas fuir ta Julie. Il le faut. Il faut nous séparer si nous voulons nous revoir heureux un jour, et l'effet des soins que tu vas prendre est notre dernier espoir. Puisse une si chère idée t'animer, te consoler durant cette amère et longue séparation. Puisse-t-elle te donner cette ardeur qui surmonte les obstacles et dompte la fortune. Hélas, le monde et les affaires seront pour toi des distractions continuelles et feront une utile diversion aux peines de l'absence. Mais je vais rester abandonnée à moi seule ou livrée aux persécutions, et tout me forcera de te regretter sans cesse. Heureuse au moins si de vaines alarmes n'aggravaient pas mes tourments réels, et si, avec mes propres mots, je ne sentais encore en moi tous ceux auxquels tu vas t'exposer. Je frémis, en songeant aux dangers de 1000 espèces que vont courir ta vie et tes mœurs. Je prends en toi toute la confiance qu'un homme peut inspirer. Mais, puisque le sort nous sépare, ah mon ami, pourquoi n'es-tu qu'un homme? Que de conseils te seraient nécessaires dans ce monde inconnu où tu vas t'engager? Ce n'est pas à moi, jeune, sans expérience, et qui ai moins d'études et de réflexions que toi, qu'il appartient de te donner là-dessus des avis. C'est un soin que je laisse à Milord Édouard. Je me borne à te recommander 2 choses, parce qu'elles tiennent plus au sentiment qu'à l'expérience, et que, si je connais peu le monde, je crois bien connaître ton cœur. N'abandonne jamais la vertu, et n'oublie jamais ta Julie. Je ne te rappellerai point tous ces arguments subtils que tu m'as toi-même appris à mépriser, qui remplissent tant de livres, et n'ont jamais fait un honnête homme. Ah, ces tristes raisonneurs, quel doux ravissement leurs cœurs n'ont jamais senti ni donné. Laisse, mon ami, ces 20 moralistes et rentre au fond de ton âme. C'est là que tu retrouveras toujours la source de ce feu sacré qui nous embrasa tant de fois de l'amour des sublimes vertus. C'est là que tu verras ce simulacre éternel du vrai beau, dont la contemplation nous anime d'un saint enthousiasme et que nos passions souillent sans cesse sans pouvoir jamais l'effacer. Souviens-toi des larmes délicieuses qui coulaient de nos yeux, des palpitations qui suffoquaient nos cœurs agités, des transports qui nous élevaient au-dessus de nous-mêmes, au récit de ces vies héroïques qui rendent le vice inexcusable et font l'honneur de l'humanité. Veux-tu savoir laquelle est vraiment désirable, de la fortune ou de la vertu? Songe à celle que le cœur préfère quand son choix est impartial. Songe où l'intérêt nous porte en lisant l'histoire. T'avisas-tu jamais de désirer les trésors de Crésus, ni la gloire de César, ni le pouvoir de Néron, ni les plaisirs d'Héliogabale? Pourquoi, s'ils étaient heureux, tes désirs ne te mettaient-ils pas à leur place? C'est qu'ils ne l'étaient point, et tu le sentais bien. C'est qu'ils étaient vils et méprisables, et qu'un méchant heureux ne fait envie à personne. Quels hommes contemplais-tu donc avec le plus de plaisir? Desquels adorais-tu les exemples? Auxquels aurais-tu mieux aimé ressembler? Charme inconcevable de la beauté qui ne périt point. C'était l'Athénien buvant la ciguë. C'était Brutus mourant pour son pays. C'était Régulus au milieu des tourments. C'était Caton déchirant ses entrailles. C'était tous ces vertueux infortunés qui te faisaient envie. Et tu sentais au fond de ton cœur la félicité réelle que couvraient leurs maux apparents. Ne crois pas que ce sentiment fût particulier à toi seul. Il est celui de tous les hommes, et souvent même en dépit d'eux. Ce divin modèle que chacun de nous porte avec lui nous enchante malgré que nous en ayons. Sitôt que la passion nous permet de le voir, nous lui voulons ressembler. Et si le plus méchant des hommes pouvait être un autre que lui-même, il voudrait être un homme de bien. Pardonne-moi ces transports, mon inaimable ami. Tu sais qu'ils me viennent de toi, et c'est à l'amour dont je les tiens à te les rendre. Je ne veux point t'enseigner ici tes propres maximes, mais t'en faire un moment l'application pour voir ce qu'elles ont à ton usage, car voici le temps de pratiquer tes propres leçons et de montrer comment on exécute ce que tu sais dire. S'il n'est pas question d'être un Caton ou un Régulus, chacun pourtant doit aimer son pays, être intègre et courageux, tenir sa foi, même aux dépens de sa vie. Les vertus privées sont souvent d'autant plus sublimes qu'elles n'aspirent point à l'approbation d'autrui, mais seulement au bon témoignage de soi-même, et la conscience du juste lui tient lieu des louanges de l'univers. Tu sentiras donc que la grandeur de l'homme appartient à tous les états, et que nul ne peut être heureux s'il ne jouit de sa propre estime, car si la véritable jouissance de l'âme est dans la contemplation du beau, comment le méchant peut-il l'aimer dans autrui sans être forcé de se haïr lui-même? Je ne crains pas que les sens et les plaisirs grossiers te corrompent. Ils sont des pièges peu dangereux pour un cœur sensible, et il lui en faut de plus délicats. Mais je crains les maximes et les leçons du monde. Je crains cette force terrible que doit avoir l'exemple universel et continuel du vice. Je crains les sophismes adroits dont il se colore. Je crains enfin que ton cœur même ne t'en impose et ne te rende moins difficile sur les moyens d'acquérir une considération que tu saurais dédaigner si notre union n'en pouvait être le fruit. Je t'avertis, mon ami, de ces dangers. Ta sagesse fera le reste, car c'est beaucoup pour s'en garantir que d'avoir su les prévoir. Je n'ajouterai qu'une réflexion, qui l'emporte à mon avis sur la fausse raison du vice, sur les fières erreurs des insensés, et qui doit suffire pour diriger au bien la vie de l'homme sage. C'est que la source du bonheur n'est tout entière ni dans l'objet désiré, ni dans le cœur qui le possède, mais dans le rapport de l'un et de l'autre, et que, comme tous les objets de nos désirs ne sont pas propres à produire la félicité, tous les états du cœur ne sont pas propres à la sentir. Si l'âme la plus pure ne suffit pas seule à son propre bonheur, il est plus sûr encore que toutes les délices de la terre ne sauraient faire celui d'un cœur dépravé, car il y a des deux côtés une préparation nécessaire, un certain concours dont résulte ce précieux sentiment, recherché de tout être sensible et toujours ignoré du faux sage, qui s'arrête au plaisir du moment, faute de connaître un bonheur durable. Que servirait donc d'acquérir un de ces avantages aux dépens de l'autre, de gagner au dehors pour perdre encore plus au dedans, et de se procurer les moyens d'être heureux en perdant l'art de les employer? Ne vaut-il pas mieux encore, si l'on ne peut avoir qu'un des deux, sacrifier celui que le sort peut nous rendre à celui qu'on ne recouvre point quand on l'a perdu? Qui le doit mieux savoir que moi, qui n'ai fait qu'empoisonner les douceurs de ma vie en pensant y mettre le comble? Laisse donc dire les méchants qui montrent leur fortune et cachent leur cœur, et sois sûr que s'il est un seul exemple du bonheur sur la terre, il se trouve dans un homme de bien. Tu reçus du ciel cet heureux penchant à tout ce qui est bon et honnête. N'écoute que tes propres désirs, ne suis que tes inclinations naturelles. Songe surtout à nos premières amours. Tandis que ces moments purs et délicieux reviendront à ta mémoire, il n'est pas possible que tu cesses d'aimer ce qui te les rendit si doux, que le charme du beau, moral, s'efface dans ton âme, ni que tu veuilles jamais obtenir ta Julie par des moyens indignes de toi. Comment jouir d'un bien dont on aurait perdu le goût? Non, pour pouvoir posséder ce qu'on aime, il faut garder le même cœur qu'il a aimé. Me voici à mon second point, car, comme tu le vois, je n'ai pas oublié mon métier. Mon ami, l'on peut sans amour avoir les sentiments sublimes d'une âme forte, mais un amour tel que le nôtre l'anime et la soutient tant qu'il brûle. Sitôt qu'il s'éteint, elle tombe en langueur, et un cœur usé n'est plus propre à rien. Dis-moi, que serions-nous si nous n'aimions plus? Eh, ne vaudrait-il pas mieux cesser d'être que d'exister sans rien sentir? Et pourrais-tu te résoudre à traîner sur la terre l'insipide vie d'un homme ordinaire, après avoir goûté tous les transports qui peuvent ravir une âme humaine? Tu vas habiter de grandes villes, où ta figure et ton âge, encore plus que ton mérite, tendront mille embûches à ta fidélité. L'insinuante coquetterie affectera le langage de la tendresse et te plaira sans t'abuser. Tu ne chercheras point l'amour, mais les plaisirs. Tu les goûteras séparés de lui et ne les pourras reconnaître. Je ne sais si tu retrouveras ailleurs le cœur de Julie, mais je te défie de jamais retrouver auprès d'une autre ce que tu sentis auprès d'elle. L'épuisement de ton âme t'annoncera le sort que je t'ai prédit. La tristesse et l'ennui t'accableront au sein des amusements frivoles. Le souvenir de nos premières amours te poursuivra malgré toi. Mon image, 100 fois plus belle que je ne fus jamais, viendra tout à coup te surprendre. À l'instant, le voile du dégoût couvrira tous tes plaisirs, et 1000 regrets amers naîtront dans ton cœur. Mon bien-aimé, mon doux ami, ah, si jamais tu m'oublies, hélas, je ne ferai qu'en mourir, mais toi tu vivras vil et malheureux, et je mourrai trop vengé. Ne l'oublie donc jamais, cette Julie qui fut à toi, et dont le cœur ne sera point à d'autres. Je ne puis rien te dire de plus dans la dépendance où le ciel m'a placée. Mais après t'avoir recommandé la fidélité, il est juste de te laisser de la mienne le seul gage qui soit en mon pouvoir. J'ai consulté, non mes devoirs, mon esprit égaré ne les connaît plus, mais mon cœur, dernière règle de qui n'en saurait plus suivre, et voici le résultat de ces inspirations. Je ne t'épouserai jamais sans le consentement de mon père, mais je n'en épouserai jamais un autre sans ton consentement. Je t'en donne ma parole, elle me sera sacrée, quoi qu'il arrive, et il n'y a point de force humaine qui puisse m'y faire manquer. Sois donc sans inquiétude sur ce que je puis devenir en ton absence. Va, mon aimable ami, chercher sous les auspices du tendre amour un sort digne de le couronner. Ma destinée est dans tes mains, autant qu'il a dépendu de moi de l'y mettre, et jamais elle ne changera que de ton aveu.
Lettre 12 de Saint Preux à Julie.
O qual fiamma di gloria, d'onore, scorre sento per tutte le vene, alma grande, parlado con te. Julie, laisse-moi respirer. Tu fais bouillonner mon sang, tu me fais tressaillir, tu me fais palpiter. Ta lettre brûle comme ton cœur du saint amour de la vertu, et tu portes au fond du mien son ardeur céleste. Mais pourquoi tant d'exhortations où il ne fallait que des ordres? Crois, si je ne m'oublie au point d'avoir besoin de raison pour bien faire, au moins ce n'est pas de ta part. Ta seule volonté me suffit. Ignores-tu que je serai toujours ce qu'il te plaira, et que je ferai le mal même avant de pouvoir te désobéir? Oui, j'aurais brûlé le Capitole si tu me l'avais commandé, parce que je t'aime plus que toute chose. Mais sais-tu bien pourquoi je t'aime ainsi? Ah, fille incomparable, c'est parce que tu ne peux rien vouloir que d'honnête, et que l'amour de la vertu rend plus invincible celui que j'ai pour tes charmes. Je pars, encouragé par l'engagement que tu viens de prendre, et dont tu pouvais t'épargner le détour, car promettre de n'être à personne sans mon consentement, n'est-ce pas promettre de n'être qu'à moi? Pour moi, je le dis plus librement, et je t'en donne aujourd'hui ma foi d'homme de bien, qui ne sera point violée. J'ignore dans la carrière où je vais m'essayer pour te complaire à quel sort la fortune m'appelle. Mais jamais les nœuds de l'amour ni de l'hymen ne m'uniront à d'autre qu'à Julie d'Étanges. Je ne vis, je n'existe que pour elle, et mourrai libre ou son époux. Adieu. L'heure presse, et je pars à l'instant.
Lettre 13. De Saint-Preux à Julie.
J'arrivais hier au soir à Paris. Et celui qui ne pouvait vivre séparé de toi par deux rues en est maintenant à plus de 100 lieues. Oh Julie, plains-moi, plains ton malheureux ami. Quand mon sang en long ruisseau aurait tracé cette route immense, elle m'eût paru moins longue, et je n'aurais pas senti défaillir mon âme avec plus de langueur. Ah, si du moins je connaissais le moment qui doit nous rejoindre, ainsi que l'espace qui nous sépare, je compenserais l'éloignement des lieux par le progrès du temps. Je compterais, dans chaque jour ôté de ma vie, les pas qui m'auraient rapproché de toi. Mais cette carrière de douleur est couverte des ténèbres de l'avenir. Le terme qui doit la borner se dérobe à mes faibles yeux. Ô doute, ô supplice! Mon cœur inquiète cherche et ne trouve rien. Le soleil se lève et ne me rend plus l'espoir de te voir. Il se couche et je ne t'ai point vu. Mes jours, vides de plaisir et de joie, s'écoulent dans une longue nuit. J'ai beau vouloir ranimer en moi l'espérance éteinte, elle ne m'offre qu'une ressource incertaine et des consolations suspectes. Cher et tendre ami de mon cœur, hélas, à quel mot faut-il m'attendre s'ils doivent égaler mon bonheur passé? Que cette tristesse ne t'alarme pas, je t'en conjure. Elle est l'effet passager de la solitude et des réflexions du voyage. Ne crains point le retour de mes premières faiblesses, mon cœur est dans ta main, ma Julie. Et, puisque tu le soutiens, il ne se laissera plus abattre. Une des consolantes idées qui sont le fruit de ta dernière lettre est que je me trouve à présent porté par une double force. Et quand l'amour aurait anéanti la mienne, je ne laisserai pas d'y gagner encore, car le courage qui me vient de toi me soutient beaucoup mieux que je n'aurais pu me soutenir moi-même. Je suis convaincu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les âmes humaines veulent être accouplées pour valoir tout leur prix. Et la force unie des amis, comme celle des lames d'un aimant artificiel, est incomparablement plus grande que la somme de leurs forces particulières. Divine amitié, c'est là ton triomphe. Mais qu'est-ce que la seule amitié auprès de cette union parfaite qui joint à toute l'énergie de l'amitié des liens 100 fois plus sacrés? Où sont-ils, ces hommes grossiers, qui ne prennent les transports de l'amour que pour une fièvre des sens, pour un désir de la nature avilie? Qu'ils viennent, qu'ils observent, qu'ils sentent ce qui se passe au fond de mon cœur, qu'ils voient un amant malheureux éloigné de ce qu'il aime, incertain de le revoir jamais, sans espoir de recouvrer sa félicité perdue, mais pourtant animé de ces feux immortels qu'ils prient dans tes yeux et qu'on nourrit tes sentiments sublimes. Prête à braver la fortune, à souffrir ses revers, à se voir même privé de toi, et à faire des vertus que tu lui as inspirées le digne ornement de cette empreinte adorable qui ne s'effacera jamais de son âme. Julie, hé, qu'aurais-je été sans toi? La froide raison m'eût éclairé peut-être, tiède admirateur du bien. Je l'aurais du moins aimé dans autrui. Je ferais plus, je saurais le pratiquer avec zèle, et pénétré de tes sages leçons, je ferai dire un jour à ceux qui nous auront connus « Oh, quels hommes nous serions tous si le monde était plein de Julie et de cœurs qui les sussent aimés !» En méditant en route sur ta dernière lettre, j'ai résolu de rassembler en un recueil toutes celles que tu m'as écrites, maintenant que je ne puis plus recevoir tes avis de bouche. Quoiqu'il n'y en ait pas une que je ne sache par cœur, et bien par cœur, tu peux m'en croire, j'aime pourtant à les relire sans cesse, ne fût-ce que pour revoir les traits de cette main chérie qui seule peut faire mon bonheur. Mais insensiblement le papier s'use, et, avant qu'elle soit déchirée, je veux les copier toutes dans un livre blanc que je viens de choisir exprès pour cela. Il est assez gros, mais je songe à l'avenir, et j'espère ne pas mourir assez jeune pour me borner à ce volume. Je destine les soirées à cette occupation charmante. et j'avancerai lentement pour la prolonger. Ce précieux recueil ne me quittera de mes jours. Il sera mon manuel dans le monde où je vais entrer. Il sera pour moi le contrepoison des maximes qu'on y respire. Il me consolera dans mes maux. Il préviendra ou corrigera mes fautes. Il m'instruira durant ma jeunesse. Il m'édifiera dans tous les temps. Et ce seront, à mon avis, les premières lettres d'amour dont on aura tiré cet usage. Quant à la dernière que j'ai présentement sous les yeux, toute belle qu'elle me paraît, j'y trouve pourtant un article à retrancher. Jugement déjà fort étrange, mais ce qui doit l'être encore plus, c'est que cet article est précisément celui qui te regarde, et je te reproche d'avoir même songé à l'écrire. Que me parles-tu de fidélité, de constance? Autrefois tu connaissais mieux mon amour et ton pouvoir. Ah, Julie, inspires-tu des sentiments périssables? Et quand je ne t'aurais rien promis, pourrais-je cesser jamais d'être à toi? Non, non, c'est du premier regard de tes yeux, du premier mot de ta bouche, du premier transport de mon cœur, que s'alluma dans lui cette flamme éternelle que rien ne peut plus éteindre. Ne t'eussais-je vu que ce premier instant, c'en était déjà fait. Il était trop tard pour pouvoir jamais t'oublier. Et je t'oublierai maintenant. Maintenant qu'enivré de mon bonheur passé, son seul souvenir suffit pour me le rendre encore, maintenant qu'oppressé du poids de tes charmes, je ne respire qu'en eux, maintenant que ma première âme est disparue et que je suis animé de celle que tu m'as donnée, maintenant, ô Julie, que je me dépite contre moi de t'exprimer si mal tout ce que je sens. Ah, que toutes les beautés de l'univers tentent de me séduire, en est-il d'autre que la tienne à mes yeux? Que tout conspire à l'arracher de mon cœur, qu'on le perce, qu'on le déchire, qu'on le brise, ce fidèle miroir de Julie, sa pure image ne cessera de briller jusque dans le dernier fragment. Rien n'est capable de l'y détruire. Non, la suprême puissance elle-même ne saurait aller jusque-là. Elle peut anéantir mon âme, mais non pas faire qu'elle existe et cesse de t'adorer. Milord Edward s'est chargé de te rendre compte à son passage de ce qui me regarde, et de ses projets en ma faveur. Mais je crains qu'il ne s'acquitte mal de cette promesse par rapport à ses arrangements présents. Apprends qu'il ose abuser du droit que lui donnent sur moi ses bienfaits pour les étendre au-delà même de la bienséance. Je me vois, par une pension qu'il n'a pas tenue à lui de rendre irrévocable, en état de faire une figure fort au-dessus de ma naissance, et c'est peut-être ce que je serais forcé de faire à Londres pour suivre ses vues. Pour ici, où nulle affaire ne m'attache, je continuerai de vivre à ma manière, et ne serai point tenté d'employer en vaines dépenses l'excédent de mon entretien. Tu me l'as appris, ma Julie. Les premiers besoins, ou du moins les plus sensibles, sont ceux d'un cœur bienfaisant. Et tant que quelqu'un manque du nécessaire, quel honnête homme a du superflu?
Lettre 14. De Saint-Preux à Julie.
J'entre avec une secrète horreur dans ce vaste désert du monde. Ce chaos ne m'offre qu'une solitude affreuse, où règne un morne silence. Mon âme, à la presse, cherche à s'y répandre, et se trouve partout resserrée. Je ne suis jamais moins seul que quand je suis seul, disait un ancien. Moi, je ne suis seul que dans la foule, où je ne puis être ni à toi ni aux autres. Mon cœur voudrait parler, il sent qu'il n'est point écouté. Il voudrait répondre, on ne lui dit rien qui puisse aller jusqu'à lui. Je n'entends point la langue du pays, et personne ici n'entend la mienne. Ce n'est pas qu'on ne me fasse beaucoup d'accueil, d'amitié, de prévenance, et que mille soins officieux n'y semblent voler au-devant de moi, mais c'est précisément de quoi je me plains. Le moyen d'être aussitôt l'ami de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, l'honnête intérêt de l'humanité, l'épanchement simple et touchant d'une âme franche, ont un langage bien différent des fausses démonstrations de la politesse et des dehors trompeurs que l'usage du monde exige. J'ai grand peur que celui qui, dès la première vue, me traite comme un ami de 20 ans, ne me traitât, au bout de 20 ans, comme un inconnu, si j'avais quelque important service à lui demander. Et quand je vois des hommes si dissipés prendre un intérêt si tendre à tant de gens, je présumerais volontiers qu'ils n'en prennent à personne. Il y a pourtant de la réalité à tout cela, car le français est naturellement bon, ouvert, hospitalier, bienfaisant. Mais il y a aussi 1000 manières de parler qu'il ne faut pas prendre à la lettre, 1000 offres apparentes qui ne sont faites que pour être refusées, mille espèces de pièges que la politesse tend à la bonne foi rustique. Je n'entendis jamais tant dire « Comptez sur moi dans l'occasion, disposez de mon crédit, de ma bourse, de ma maison, de mon équipage. » Si tout cela était sincère et pris au mot, il n'y aurait pas de peuple moins attaché à la propriété. La communauté des biens serait ici presque établie, le plus riche offrant sans cesse et le plus pauvre acceptant toujours. Tout se mettrait naturellement de niveau. Et Sparte même eût eu des partages moins égaux qu'il ne serait à Paris. Au lieu de cela, c'est peut-être la ville du monde où les fortunes sont le plus inégales, et où règne à la fois la plus somptueuse opulence et la plus déplorable misère. Il n'en faut pas davantage pour comprendre ce que signifie cette apparente commisération, qui semble toujours aller au-devant des besoins d'autrui, et cette facile tendresse de cœur qui contracte en un moment des amitiés éternelles. Au lieu de tous ces sentiments suspects et de cette confiance trompeuse, veux-je chercher des lumières et de l'instruction? C'en est ici l'aimable source. Et l'on est d'abord enchanté du savoir et de la raison qu'on trouve dans les entretiens non seulement des savants et des gens de lettres, mais des hommes de tous les états, et même des femmes. Le ton de la conversation y est coulant et naturel, il n'est ni pesant ni frivole, il est savant sans pédanterie, gai sans tumulte, poli sans affectation, galant sans fadeur, badin sans équivoque. Ce ne sont ni des dissertations ni des épigrammes. On y raisonne sans argumenter, on y plaisante sans jeu de mots. On y associe avec art l'esprit et la raison, les maximes et les saillies, la satire aiguë, la droite flatterie et la morale austère. On y parle de tout pour que chacun ait quelque chose à dire. On n'approfondit point les questions de peur d'ennuyer, on les propose comme en passant, on les traite avec rapidité. La précision mène à l'élégance, chacun dit son avis et l'appuie en peu de mots. Nul n'attaque avec chaleur celui d'autrui, nul ne défend opiniâtrement le sien, on discute pour s'éclairer, on s'arrête avant la dispute, chacun s'instruit, chacun s'amuse, tous s'en vont contents, et le sage même peut rapporter de ses entretiens des sujets dignes d'être médités en silence. Mais, au fond, que penses-tu qu'on apprenne dans ces conversations si charmantes? À juger sainement des choses du monde? À bien user de la société? À connaître au moins les gens avec qui l'on vit? Rien de tout cela, ma Julie. On y apprend à plaider avec art la cause du mensonge, à ébranler à force de philosophie tous les principes de la vertu, à colorer de sophismes subtils ses passions et ses préjugés, et à donner à l'erreur un certain tour à la mode selon les maximes du jour. Il n'est point nécessaire de connaître le caractère des gens, mais seulement leurs intérêts, pour deviner à peu près ce qu'ils diront de chaque chose. Quand un homme parle, c'est pour ainsi dire son habit et non pas lui qui a un sentiment. Et il en changera sans façon tout aussi souvent que d'état. Donnez-lui tour à tour une longue perruque, un habit d'ordonnance et une croix pectorale, vous l'entendrez successivement prêcher avec le même zèle les lois, le despotisme et l'inquisition. Il y a une raison commune pour la robe, une autre pour la finance, une autre pour l'épée. Chacun prouve très bien que les deux autres sont mauvaises, conséquences faciles à tirer pour les trois. Ainsi, nul ne dit jamais ce qu'il pense, mais ce qui lui convient de faire penser à autrui. Et le zèle apparent de la vérité n'est jamais en eux que le masque de l'intérêt. Vous croiriez que les gens isolés qui vivent dans l'indépendance ont au moins un esprit à eux? Point du tout. Autre machine qui ne pense point, et qu'on fait penser par ressort. On n'a qu'à s'informer de leur société, de leur coterie, de leurs amis, des femmes qu'ils voient, des auteurs qu'ils connaissent. Là-dessus, on peut d'avance établir leurs sentiments futurs sur un livre prêt à paraître et qu'ils n'ont point lu, sur une pièce prête à jouer et qu'ils n'ont point vue, sur tel ou tel auteur qu'ils ne connaissent point, sur tel ou tel système dont ils n'ont aucune idée. Et comme la pendule ne se montre ordinairement que pour 24 heures, tous ces gens-là s'en vont chaque soir, apprendre dans leur société ce qu'ils penseront le lendemain. Il y a ainsi un petit nombre d'hommes et de femmes qui pensent pour tous les autres, et pour lesquels tous les autres parlent et agissent. Et comme chacun songe à son intérêt, personne au bien commun, et que les intérêts particuliers sont toujours opposés entre eux, c'est un choc perpétuel de brigues et de cabales, un flux et reflux de préjugés, d'opinions contraires, où les plus échauffés, animés par les autres, ne savent presque jamais de quoi il est question. Chaque coterie a ses règles, ses jugements, ses principes, qui ne sont point admis ailleurs. L'honnête homme d'une maison est un fripon dans la maison voisine. Le bon, le mauvais, le beau, le laid, la vérité, la vertu, n'ont qu'une existence locale et circonscrite. Quiconque aime à se répandre et fréquente plusieurs sociétés doit être plus flexible qu'Alcibiade, changer de principe comme d'assemblée, modifier son esprit pour ainsi dire à chaque pas et mesurer ses maximes à la toise. Il faut qu'à chaque visite il quitte en entrant son âme, s'il en a une, qu'il en prenne une autre aux couleurs de la maison, comme un laquais prend un habit de livrée, qu'il la pose de même en sortant et reprenne, s'il veut, la sienne jusqu'à nouvel échange. Il y a plus, c'est que chacun se met sans cesse en contradiction avec lui-même, sans qu'on s'avise de le trouver mauvais. On a des principes pour la conversation et d'autres pour la pratique. Leur opposition ne scandalise personne, et l'on est convenu qu'ils ne se ressembleraient point entre eux. On n'exige pas même d'un auteur, surtout d'un moraliste, qu'il parle comme ses livres, qu'il agisse comme il parle. Ses écrits, ses discours, sa conduite sont trois choses toutes différentes, qu'il n'est point obligé de concilier. En un mot, tout est absurde, et rien ne choque, parce qu'on y est accoutumé. Il y a même à cette inconséquence une sorte de bon air dont bien des gens se font honneur. En effet, quoique tous prêchent avec zèle les maximes de leur profession, tous se piquent d'avoir le ton d'une autre. Le robin prend l'air cavalier, le financier fait le seigneur, l'évêque a le propos galant, l'homme de cour parle de philosophie, l'homme d'État de bel esprit. Il n'y a pas jusqu'au simple artisan qui, ne pouvant prendre un autre ton que le sien, se met en noir les dimanches pour avoir l'air d'un homme de palais. Les militaires seuls, dédaignant tous les autres états, gardent sans façon le ton du leur, et sont insupportables de bonne foi. Ce n'est pas que M. de Muralte n'eût raison quand il donnait la préférence à leur société, mais ce qui était vrai de son temps ne l'est plus aujourd'hui. Le progrès de la littérature a changé en mieux le ton général, les militaires seuls n'en ont point voulu changer, et le leur, qui était meilleur auparavant, est enfin devenu le pire. Ainsi, les hommes à qui l'on parle ne sont point ceux avec qui l'on converse. Leurs sentiments ne partent point de leur cœur, leurs lumières ne sont point dans leur esprit, leurs discours ne représentent point leurs pensées, on n'aperçoit d'eux que leurs figures, et l'on est dans une assemblée à peu près comme devant un tableau mouvant où le spectateur paisible est le seul être mu par lui-même. Telle est l'idée que je me suis formée de la grande société sur celle que j'ai vue à Paris. Cette idée est peut-être plus relative à ma situation particulière qu'au véritable état des choses, et se réformera sans doute sur de nouvelles lumières. D'ailleurs, je ne fréquente que les sociétés où les amis de Milord Édouard m'ont introduit, et je suis convaincu qu'il faut descendre dans d'autres états pour connaître les véritables mœurs d'un pays, car celles des riches sont presque partout les mêmes. Je tâcherai de m'éclaircir mieux dans la suite. En attendant, juge si j'ai raison d'appeler cette foule un désert, et de m'effrayer d'une solitude où je ne trouve qu'une vaine apparence de sentiment et de vérité qui change à chaque instant et se détruit elle-même, où je n'aperçois que larves et fantômes qui frappent l'œil un moment et disparaissent aussitôt qu'on veut les saisir. Jusqu'ici, j'ai vu beaucoup de masques. Quand verrai-je des visages d'hommes ?
Lettre 15 de Julie à Saint-Preux.
Oui, mon ami, nous serons unis malgré notre éloignement. Nous serons heureux en dépit du sort. C'est l'union des cœurs qui fait leur véritable félicité. Leur attraction ne connaît point la loi des distances, et les nôtres se toucheraient aux deux bouts du monde. Je trouve, comme toi, que les amants ont mille moyens d'adoucir le sentiment de l'absence et de se rapprocher en un moment. Quelquefois même, on se voit plus souvent encore que quand on se voyait tous les jours, car sitôt qu'un des deux est seul, à l'instant, tous deux sont ensemble. Si tu goûtes ce plaisir tous les soirs, je le goûte 100 fois par jour. Je vis plus solitaire, je suis environné de tes vestiges, et je ne saurais fixer les yeux sur les objets qui m'entourent sans te voir tout autour de moi. Qui canto dolcemente, e qui s'assise, qui si rivolse, e qui ritene il passo. qui cobelli occhi mi trafisse il cuore, qui disse una parola e qui sorrise. Mais toi, sais-tu t'arrêter à ces situations paisibles? Sais-tu goûter un amour tranquille et tendre qui parle au cœur sans émouvoir les sens? Et tes regrets sont-ils aujourd'hui plus sages que tes désirs ne l'étaient autrefois? Le ton de ta première lettre me fait trembler. Je redoute ces emportements trompeurs, d'autant plus dangereux que l'imagination qui les excite n'a point de bornes, et je crains que tu n'outrages ta Julie à force de l'aimer. Ah, tu ne sens pas, non, ton cœur peu délicat ne sent pas combien l'amour s'offense d'un vain hommage. Tu ne songes ni que ta vie est à moi, ni qu'on court souvent à la mort en croyant servir la nature. Homme sensuel, ne sauras-tu jamais aimer? Rappelle-toi, rappelle-toi ce sentiment si calme et si doux que tu connus une fois et que tu décrivis d'un ton si touchant et si tendre. S'il est le plus délicieux qu'ait jamais savouré l'amour heureux, il est le seul permis aux amants séparés, et quand on l'a pu goûter un moment, on n'en doit plus regretter d'autres. Je me souviens de réflexions que nous faisions, en lisant ton Plutarque, sur un goût dépravé qui outrage la nature. Quand ces tristes plaisirs n'auraient que de n'être pas partagés, c'en serait assez, disions-nous, pour les rendre insipides et méprisables. Appliquons la même idée aux erreurs d'une imagination trop active, elle ne leur conviendra pas moins. Malheureux, de quoi jouis-tu quand tu es seul à jouir? Ces voluptés solitaires sont des voluptés mortes. Ô amour, les tiennes sont vives, c'est l'union des âmes qui les anime, et le plaisir qu'on donne à ce qu'on aime fait valoir celui qu'il nous rend. Dis-moi, je te prie, mon cher ami, en quelle langue, ou plutôt en quel jargon, est la relation de ta dernière lettre? Ne serait-ce point là, par hasard, du bel esprit? Si tu as dessein de t'en servir souvent avec moi, tu devrais bien m'en envoyer le dictionnaire. Qu'est-ce, je te prie, que le sentiment de l'habit d'un homme? Qu'une âme comprend comme un habit de livrée? Que des maximes qu'il faut mesurer à la toise? Que veux-tu qu'une pauvre Suissesse entende à ces sublimes figures? Au lieu de prendre comme les autres des âmes aux couleurs des maisons, ne voudrais-tu point déjà donner à ton esprit la teinte de celui du pays? Prends garde, mon bon ami, j'ai peur qu'elle n'aille pas bien sur ce fond-là. À ton avis, les traces latines du cavalier marin, dont tu t'es si souvent moqué, approchèrent-ils jamais de ces métaphores? Et si l'on peut faire opiner l'habit d'un homme dans une lettre, pourquoi ne ferait-on pas suer le feu dans un sonnet? Observer en 3 semaines toutes les sociétés d'une grande ville, assigner le caractère des propos qu'on y tient, y distinguer exactement le vrai du faux, le réel de l'apparent, et ce qu'on y dit de ce qu'on y pense, voilà ce qu'on accuse les Français de faire quelquefois chez les autres peuples. Mais ce qu'un étranger ne doit point faire chez eux, car ils valent la peine d'être étudiés posément. Je n'approuve pas non plus qu'on dise du mal du pays où l'on vit et où l'on est bien traité. J'aimerais mieux qu'on se laissât tromper par les apparences que de moraliser aux dépens de ses hôtes. Enfin, je tiens pour suspect tout observateur qui se pique d'esprit. Je crains toujours que, sans y songer, il ne sacrifie la vérité des choses à l'éclat des pensées et ne fasse jouer sa phrase aux dépens de la justice. Tu ne l'ignores pas, mon ami, l'esprit, dit notre Murat, est la manie des Français. Je te trouve à toi-même du penchant à la même manie, avec cette différence qu'elle a chez eux de la grâce, et que de tous les peuples du monde, c'est à nous qu'elle sied le moins. Il y a de la recherche et du jeu dans plusieurs de tes lettres. Je ne parle point de ce tour vif et de ces expressions animées qu'inspire la force du sentiment. Je parle de cette gentillesse de style qui, n'étant point naturelle, ne vient d'elle-même à personne et marque la prétention de celui qui s'en sert. Eh Dieu, des prétentions avec ce qu'on aime, n'est-ce pas plutôt dans l'objet aimé qu'on les doit placer, et n'est-on pas glorieux soi-même de tout le mérite qu'il a de plus que nous? Non, si l'on anime les conversations indifférentes de quelques saillies qui passent comme des traits, ce n'est point entre deux amants que ce langage est de saison. Et le jargon fleuri de la galanterie est beaucoup plus éloigné du sentiment que le ton le plus simple qu'on puisse prendre. J'en appelle à toi-même. L'esprit eut-il jamais le temps de se montrer dans nos tête-à-tête? Et si le charme d'un entretien passionné l'écarte et l'empêche de paraître, comment des lettres, que l'absence remplit toujours d'un peu d'amertume, et où le cœur parle avec plus d'attendrissement, le pourrait-elle supporter? Quoique toute grande passion soit sérieuse, et que l'excessive joie elle-même arrache des pleurs plutôt que des cris, je ne veux pas pour cela que l'amour soit toujours triste, mais je veux que sa gaieté soit simple, sans ornement, sans art, nue comme lui, qu'elle brille de ses propres grâces et non de la parure du bel esprit. L'inséparable, dans la chambre de laquelle je t'écris cette lettre, prétend que j'étais, en la commençant, dans cet état d'enjouement que l'amour inspire ou tolère. Mais je ne sais ce qu'il est devenu. À mesure que j'avançais, une certaine langueur s'emparait de mon âme et me laissait à peine la force de t'écrire les injures que la mauvaise a voulu t'adresser. Car il est bon de t'avertir que la critique de ta critique est bien plus souvent de sa façon que de la mienne. Elle m'en a dicté surtout le premier article en riant comme une folle et sans me permettre d'y rien changer. Elle dit que c'est pour t'apprendre à manquer de respect aux Marigny qu'elle protège et que tu plaisantes. Mais sais-tu bien ce qui nous met toutes deux de si bonne humeur? C'est son prochain mariage. Le contrat fut passé hier au soir et le jour est pris de lundi en 8. Si jamais amour fut gai, c'est assurément le sien. On ne vit de la vie une fille si bouffonnement amoureuse. Ce bon monsieur d'Orbe, à qui de son côté la tête en tourne, est enchanté d'un accueil si folâtre. Moins difficile que tu n'étais autrefois, il se prête avec plaisir à la plaisanterie et prend pour un chef-d'œuvre de l'amour l'art d'égayer sa maîtresse. Pour elle, on a beau la prêcher, lui représenter la bienséance, lui dire que si près du terme elle doit prendre un maintien plus sérieux, plus grave, et faire un peu mieux les honneurs de l'État qu'elle est prête à quitter, elle traite tout cela de sotte simagrée. Elle soutient en face à Monsieur d'Orbe que le jour de la cérémonie elle sera de la meilleure humeur du monde et qu'on ne saurait aller trop gaiement à la noce. Mais la petite dissimulée ne dit pas tout. Je lui ai trouvé ce matin les yeux rouges et je parie bien que les pleurs de la nuit payent les ris de la journée. Elle va former de nouvelles chaînes qui relâcheront les doux liens de l'amitié. Elle va commencer une manière de vivre différente de celle qui lui fut chère. Elle était contente et tranquille. Elle va courir les hasards auxquels le meilleur mariage expose, et quoi qu'elle en dise. Comme une eau pure et calme commence à se troubler aux approches de l'orage, son cœur timide et chaste ne voit point sans quelque alarme le prochain changement de son sort. Ô mon ami, qu'ils sont heureux. Ils s'aiment, ils vont s'épouser. Ils jouiront de leur amour sans obstacle, sans crainte, sans remords. Adieu, adieu, je n'en puis dire davantage. P.S. Nous n'avons vu Milord Edward qu'un moment, tant il était pressé de continuer sa route. Le cœur plein de ce que nous lui devons, je voulais lui montrer mes sentiments et les tiens, mais j'en ai eu une espèce de honte. En vérité, c'est faire injure à un homme comme lui de le remercier de rien.
Lettre 16 de Saint-Preux à Julie.
Que les passions impétueuses rendent les hommes enfants, qu'un amour forcené se nourrit aisément de chimères, et qu'il est aisé de donner le change à des désirs extrêmes par les plus frivoles objets. J'ai reçu ta lettre avec les mêmes transports que m'aurait causé ta présence, et, dans l'emportement de ma joie, un vain papier me tenait lieu de toi. Un des plus grands maux de l'absence, et le seul auquel la raison ne peut rien, c'est l'inquiétude sur l'état actuel de ce qu'on aime. Sa santé, sa vie, son repos, son amour, tout échappe à qui craint de tout perdre. On n'est pas plus sûr du présent que de l'avenir, et tous les accidents possibles se réalisent sans cesse dans l'esprit d'un amant qui les redoute. Enfin, je respire, je vis. Tu te portes bien, tu m'aimes. Ou plutôt, il y a 10 jours que tout cela était vrai, mais qui me répondra d'aujourd'hui? Ô absence, ô tourment, ô bizarre et funeste état où l'on ne peut jouir que du moment passé et où le présent n'est point encore. Quand tu ne m'aurais pas parlé de l'inséparable, j'aurais reconnu sa malice dans la critique de ma relation et sa rancune dans l'apologie du Marigny. Mais s'il m'était permis de faire la mienne, je ne resterais pas sans réplique. Premièrement, ma cousine, car c'est à elle qu'il faut répondre, quant au style, j'ai pris celui de la chose. J'ai tâché de vous donner à la fois l'idée et l'exemple du ton des conversations à la mode. Et, suivant un ancien précepte, je vous ai écrit à peu près comme on parle en certaines sociétés. D'ailleurs, ce n'est pas l'usage des figures, mais leur choix que je blâme dans un cavalier marin. Pour peu qu'on ait de chaleur dans l'esprit, on a besoin de métaphores et d'expressions figurées pour se faire entendre. Vos lettres même en sont pleines sans que vous y songiez, et je soutiens qu'il n'y a qu'un géomètre et un sot qui puisse parler sans figure. En effet, un même jugement n'est-il pas susceptible de 100 degrés de force? Et comment déterminer celui de ces degrés qu'il doit avoir, sinon par le tour qu'on lui donne? Mes propres phrases me font rire, je l'avoue. Je les trouve absurdes, grâce aux soins que vous avez pris de les isoler. Mais laissez-les où je les ai mises. Vous les trouverez claires et même énergiques. Si ces yeux éveillés, que vous savez si bien faire parler, étaient séparés l'un de l'autre, et de votre visage, cousine, que pensez-vous qu'ils diraient avec tout leur feu? Ma foi, rien du tout. Pas même à Monsieur d'Orbe. La première chose qui se présente à observer dans un pays où l'on arrive, n'est-ce pas le ton général de la société? Eh bien, c'est aussi la première observation que j'ai faite dans celui-ci. Et je vous ai parlé de ce qu'on dit à Paris, et non pas de ce qu'on y fait. Si j'ai remarqué du contraste entre les discours, les sentiments et les actions des honnêtes gens, c'est que ce contraste saute aux yeux au premier instant. Quand je vois les mêmes hommes changer les maximes selon les coteries, monolistes dans l'une, jansénistes dans l'autre, vils courtisans chez un ministre, frondeurs mutins chez un mécontent, quand je vois un homme doré décrier le luxe, un financier les impôts, un prélat le dérèglement, quand j'entends une femme de la cour parler de modestie, un grand seigneur de vertu, un auteur de simplicité, un abbé de religion, et que ces absurdités ne choquent personne, ne dois-je pas conclure à l'instant qu'on ne se soucie pas plus ici d'entendre la vérité que de la dire, et que, loin de vouloir persuader les autres quand on leur parle, on ne cherche pas même à leur faire penser qu'on croit ce qu'on leur dit. Mais c'est assez plaisanté avec la cousine. Je laisse un ton qui nous est étrange à tous trois, et j'espère que tu ne me verras pas plus prendre le goût de la satire que celui du bel esprit. C'est à toi, Julie, qu'il faut à présent répondre, car je sais distinguer la critique badine des reproches sérieux. Je ne conçois pas comment vous avez pu prendre toutes deux le change sur mon objet. Ce ne sont point les Français que je me suis proposé d'observer, car si le caractère des nations ne peut se déterminer que par leurs différences, comment moi, qui n'en connais encore aucune autre, entreprendrais-je de peindre celle-ci? Je ne serais pas non plus si maladroit que de choisir la capitale pour le lieu de mes observations. Je n'ignore pas que les capitales diffèrent moins entre elles que les peuples, et que les caractères nationaux s'y effacent et confondent en grande partie, tant à cause de l'influence commune des cours qui se ressemblent toutes, que par l'effet commun d'une société nombreuse et resserrée, qui est le même à peu près sur tous les hommes, et l'emporte à la fin sur le caractère originel. Si je voulais étudier un peuple, c'est dans les provinces reculées où les habitants ont encore leur inclination naturelle que j'irai les observer. Je parcourrai lentement et avec soin plusieurs de ces provinces, les plus éloignées les unes des autres. Toutes les différences que j'observerais entre elles me donneraient le génie particulier de chacune. Tout ce qu'elles auraient de commun et que n'auraient pas les autres peuples formerait le génie national. Et ce qui se trouverait partout appartiendrait en général à l'homme. Mais je n'ai ni ce vaste projet, ni l'expérience nécessaire pour le suivre. Mon objet est de connaître l'homme, et ma méthode, de l'étudier dans ses diverses relations. Je ne l'ai vu jusqu'ici qu'en petite société, éparse et presque isolée sur la terre. Je vais maintenant le considérer entassé par multitude dans les mêmes lieux, et je commencerai à juger par là des vrais effets de la société. Car s'il est constant qu'elle rende les hommes meilleurs, plus elle est nombreuse et rapprochée, mieux ils doivent valoir. Et les mœurs, par exemple, seront beaucoup plus pures à Paris que dans le Valais. Que si l'on trouvait le contraire, il faudrait tirer une conséquence opposée. Cette méthode pourrait, j'en conviens, me mener encore à la connaissance des peuples, mais par une voie si longue et si détournée que je ne serais peut-être de ma vie en état de prononcer sur aucun d'eux. Il faut que je commence par tout observer dans le premier où je me trouve, que j'assigne ensuite les différences, à mesure que je parcourrai les autres pays, que je compare la France à chacun d'eux, comme on décrit l'olivier sur un saule, ou le palmier sur un sapin, et que j'attende à juger du premier peuple observé que j'ai observé tous les autres. Veuille donc, ma charmante prêcheuse, distinguer ici l'observation philosophique de la satire nationale. Ce ne sont point les Parisiens que j'étudie, mais les habitants d'une grande ville. Et je ne sais si ce que j'en vois ne convient pas à Rome et à Londres, tout aussi bien qu'à Paris. Les règles de la morale ne dépendent point des usages des peuples. Ainsi, malgré les préjugés dominants, je sens fort bien ce qui est mal en soi. Mais ce mal, j'ignore s'il faut l'attribuer aux Français ou à l'homme. et s'il est l'ouvrage de la coutume ou de la nature. Le tableau du vice offense en tout lieu un œil impartial, et l'on n'est pas plus blâmable de le reprendre dans un pays où il règne, quoi qu'on y soit, que de relever les défauts de l'humanité, quoi qu'on vive avec les hommes. Ne suis-je pas à présent moi-même un habitant de Paris? Peut-être, sans le savoir, ai-je déjà contribué pour ma part au désordre que j'y remarque? Peut-être un trop long séjour y corromprait-il ma volonté même? Peut-être, au bout d'un an, ne serais-je plus qu'un bourgeois? Si, pour être digne de toi, je ne gardais l'âme d'un homme libre et les mœurs d'un citoyen. Laisse-moi donc te peindre sans contrainte les objets auxquels je rougisse de ressembler, et m'animer au pur zèle de la vérité par le tableau de la flatterie et du mensonge. Si j'étais le maître de mes occupations et de mon sort, je saurais, n'en doute pas, choisir d'autres sujets de lettres. Et tu n'étais pas mécontente de celles que je t'écrivais de Mairie et du Valais. Mais, cher ami, pour avoir la force de supporter le fracas du monde où je suis contraint de vivre, il faut bien au moins que je me console à te le décrire, et que l'idée de te préparer des relations m'excite à en chercher les sujets. Autrement, le découragement va m'atteindre à chaque pas, et il faudra que j'abandonne tout si tu ne veux rien voir avec moi. Pense que, pour vivre d'une manière si peu conforme à mon goût, je fais un effort qui n'est pas indigne de sa cause, et pour juger quels soins me peuvent mener à toi, souffre que je te parle quelquefois des maximes qu'il faut connaître et des obstacles qu'il faut surmonter. Malgré ma lenteur, malgré mes distractions inévitables, mon recueil était fini quand ta lettre est arrivée, heureusement, pour le prolonger. Et j'admire, le voyant si court, combien de choses ton cœur m'a su dire en si peu d'espace. Non, je soutiens qu'il n'y a point de lecture aussi délicieuse, même pour qui ne te connaîtrait pas, s'il avait une âme semblable au nôtre. Mais comment ne pas te connaître en lisant tes lettres? Comment prêter un ton si touchant et des sentiments si tendres à une autre figure que la tienne? À chaque phrase, ne voit-on pas le doux regard de tes yeux? À chaque mot, n'entend-on pas ta voix charmante? Quel autre que Julie a jamais aimé, pensé, parlé, agi, écrit comme elle? Ne sois donc pas surprise si tes lettres, qui te peignent si bien, font quelquefois sur ton idolâtre amant le même effet que ta présence. En les relisant, je perds la raison. Ma tête s'égare dans un délice continuel. Un feu dévorant me consume. Mon sang s'allume et pétille. Une fureur me fait tressaillir. Je crois te voir, te toucher, te presser contre mon sein. Objet adoré, fille enchanteresse, source de délices et de volupté. Comment, en te voyant, ne pas voir les houris faites pour les bienheureux. Ah, viens, je la sens, elle m'échappe, et je n'embrasse qu'une ombre. Il est vrai, cher ami, tu es trop belle, et tu fus trop tendre pour mon faible cœur. Il ne peut oublier ni ta beauté ni tes caresses. Tes charmes triomphent de l'absence, ils me poursuivent partout, ils me font craindre la solitude, et c'est le comble de ma misère de n'oser m'occuper toujours de toi. Ils seront donc unis malgré les obstacles, ou plutôt, ils le sont au moment que j'écris. Aimables et dignes époux, puisse le ciel les combler du bonheur que mérite leur sage et paisible amour, l'innocence de leurs mœurs, l'honnêteté de leurs âmes. Puisse-t-il leur donner ce bonheur précieux dont il est si avare envers les cœurs faits pour le goûter? Qu'ils seront heureux s'il leur accorde, hélas, tout ce qu'il nous ôte. Mais pourtant, ne sens-tu pas quelque sorte de consolation dans nos maux? Ne sens-tu pas que l'excès de notre misère n'est point non plus sans dédommagement, et que s'ils ont des plaisirs dont nous sommes privés, nous en avons aussi qu'ils ne peuvent connaître? Oui, ma douce amie, malgré l'absence, les privations, les alarmes, malgré le désespoir même, les puissants élancements de nos deux cœurs l'un vers l'autre ont toujours une volupté secrète ignorée des âmes tranquilles. C'est un des miracles de l'amour de nous faire trouver du plaisir à souffrir. Et nous regarderions comme le pire des malheurs un état d'indifférence et d'oubli qui nous ôterait tout le sentiment de nos peines. Plaignons donc notre sort, ô Julie, mais n'envions celui de personne. Il n'y a point, peut-être, à tout prendre, d'existence préférable à la nôtre. Et comme la divinité tire tout son bonheur d'elle-même, les cœurs qu'échauffe un feu céleste trouvent dans leurs propres sentiments une sorte de jouissance pure et délicieuse, indépendante de la fortune et du reste de l'univers.
Lettre 17 de Saint Preux à Julie.
Enfin, me voilà tout à fait dans le torrent. Mon recueil fini, j'ai commencé de fréquenter les spectacles et de souper en ville. Je passe ma journée entière dans le monde. Je prête mes oreilles et mes yeux à tout ce qui les frappe. Et n'apercevant rien qui te ressemble, je me recueille au milieu du bruit et converse en secret avec toi. Ce n'est pas que cette vie bruyante et tumultueuse n'ait aussi quelque sorte d'attrait, et que la prodigieuse diversité d'objets n'offre de certains agréments à de nouveaux débarqués. Mais pour les sentir, il faut avoir le cœur vide et l'esprit frivole. L'amour et la raison semblent s'unir pour m'en dégoûter. Comme tout n'est que vaine apparence et que tout change à chaque instant, je n'ai le temps d'être ému de rien, ni celui de rien examiner. Ainsi, je commence à voir les difficultés de l'étude du monde, et je ne sais pas même quelle place il faut occuper pour le bien connaître. Le philosophe en est trop loin, l'homme du monde en est trop près. L'un voit trop pour pouvoir réfléchir, l'autre trop peu pour juger du tableau total. Chaque objet qui frappe le philosophe, il le considère à part, et, n'en pouvant discerner ni les liaisons ni les rapports avec d'autres objets qui sont hors de sa portée, il ne le voit jamais à sa place, et n'en sent ni la raison ni les vrais effets. L'homme du monde voit tout et n'a le temps de penser à rien. La mobilité des objets ne lui permet que de les apercevoir et non de les observer. Ils s'effacent mutuellement avec rapidité et il ne lui reste du tout que des impressions confuses qui ressemblent au chaos. On ne peut pas non plus voir et méditer alternativement parce que le spectacle exige une continuité d'attention qui interrompt la réflexion. Un homme qui voudrait diviser son temps par intervalle entre le monde et la solitude, toujours agité dans sa retraite et toujours étranger dans le monde, ne serait bien nulle part. Il n'y aurait d'autre moyen que de partager sa vie entière en deux grands espaces, l'un pour voir, l'autre pour réfléchir. Mais cela même est presque impossible, car la raison n'est pas un meuble qu'on pose et qu'on reprenne à son gré. Et quiconque a pu vivre 10 ans sans penser ne pensera de sa vie. Je trouve aussi que c'est une folie de vouloir étudier le monde en simple spectateur. Celui qui ne prétend qu'observer n'observe rien, parce qu'étant inutile dans les affaires et importun dans les plaisirs, il n'est admis nulle part. On ne voit agir les autres qu'autant qu'on agit soi-même. Dans l'école du monde, comme dans celle de l'amour, il faut commencer par pratiquer ce qu'on veut apprendre. Quel parti prendrais-je donc, moi, étranger ? Qui ne puisse avoir aucune affaire en ce pays et que la différence de religion empêcherait seule d'y pouvoir aspirer à rien. J'y suis réduit à m'abaisser pour m'instruire et ne pouvant jamais être un homme utile, à tâcher de me rendre un homme amusant. Je m'exerce, autant qu'il est possible, à devenir poli sans fausseté, complaisant sans bassesse, et à prendre si bien ce qu'il y a de bon dans la société que j'y puisse être souffert sans en adopter les vices. Tout homme oisif qui eût voir le monde doit au moins en prendre les manières jusqu'à un certain point. Car de quel droit exigerait-on d'être admis parmi des gens à qui l'on est bon à rien et à qui l'on n'aurait pas l'art de plaire? Mais aussi, quand il a trouvé cet art, on ne lui en demande pas davantage, surtout s'il est étranger. Il peut se dispenser à prendre part aux cabales, aux intrigues, aux démêlés. S'il se comporte honnêtement envers chacun, s'il ne donne à certaines femmes ni exclusion ni préférence, s'il garde le secret de chaque société où il est reçu, s'il n'étale point les ridicules d'une maison dans une autre, s'il évite les confidences, s'il se refuse aux tracasseries, s'il garde partout une certaine dignité, il pourra voir paisiblement le monde, conserver ses mœurs, sa probité, sa franchise même, pourvu qu'elles viennent d'un esprit de liberté et non d'un esprit de parti. Voilà ce que j'ai tâché de faire, par l'avis de quelques gens éclairés que j'ai choisis pour guide parmi les connaissances que m'a données Miller Edward. J'ai donc commencé d'être admis dans des sociétés moins nombreuses et plus choisies. Je m'en étais trouvé, jusqu'à présent, qu'à des dîners réglés, où l'on ne voit de femmes que la maîtresse de la maison, où tous les désœuvrés de Paris sont reçus pour peu qu'on les connaisse, où chacun paye comme il peut son dîner, en esprit ou en flatterie, et dont le ton bruyant et confus ne diffère pas beaucoup de celui des tables d'auberge. Je suis maintenant initié à des mystères plus sacrés. J'assiste à des soupers priés, où la porte est fermée à tout survenant, et où l'on est sûr de ne trouver que des gens qui conviennent tous, sinon les uns aux autres, au moins à ceux qui les reçoivent. C'est là que les femmes s'observent moins, et qu'on peut commencer à les étudier. C'est là que règnent plus paisiblement des propos plus fins et plus satiriques. C'est là qu'au lieu des nouvelles publiques, des spectacles, des promotions, des morts, des mariages, dont on a parlé le matin, on passe discrètement en revue les anecdotes de Paris, qu'on dévoile tous les événements secrets de la chronique scandaleuse, qu'on rend le bien et le mal également plaisants et ridicules, et que, peignant avec art et selon l'intérêt particulier les caractères des personnages, chaque interlocuteur, sans y penser, peint encore beaucoup mieux le sien. C'est là qu'un reste de circonspection fait inventer devant les laquais un certain langage entortillé, sous lequel, feignant de rendre la satire plus obscure, on la rend seulement plus amère. C'est là, en un mot, qu'on affile avec soin le poignard, sous prétexte de faire moins de mal, mais en effet pour l'enfoncer plus avant. Cependant, à considérer ces propos selon nos idées, on aurait tort de les appeler satiriques, car ils sont bien plus railleurs que mordants, et tombent moins sur le vice que sur le ridicule. En général, la satire a peu de cours dans les grandes villes, où ce qui n'est que mal est si simple que ce n'est pas la peine d'en parler. Que reste-t-il à blâmer où la vertu n'est plus estimée, et de quoi médirait-on quand on ne trouve plus de mal à rien? À Paris, surtout, où l'on ne saisit les choses que par le côté plaisant, tout ce qui doit allumer la colère et l'indignation est toujours mal reçu, s'il n'est mis en chanson ou en épigramme. Les jolies femmes n'aiment point à se fâcher. Aussi ne se fâchent-elles de rien. Elles aiment à rire, et comme il n'y a pas le mot pour rire au crime, les fripons sont d'honnêtes gens, comme tout le monde. Mais malheur à qui prête le flanc au ridicule. Sa caustique empreinte est ineffaçable. Il ne déchire pas seulement les mœurs, la vertu. Il marque jusqu'au vice même. Il fait calomnier les méchants. Mais revenons à nos soupers. Ce qui m'a le plus frappé dans ces sociétés d'élite, c'est de voir 6 personnes choisies exprès pour s'entretenir agréablement ensemble et parmi lesquelles règnent même le plus souvent des liaisons secrètes. Ne pouvoir rester une heure entre elles 6 sans y faire intervenir la moitié de Paris, comme si leur cœur n'avait rien à se dire, et qu'il n'y eût là personne qui méritât de les intéresser. Te souvient-il, ma Julie, comment, en soupant chez ta cousine ou chez toi, nous savions, en dépit de la contrainte et du mystère, faire tomber l'entretien sur des sujets qui usent du rapport à nous, et comment, à chaque réflexion touchante, à chaque allusion subtile, un regard plus vif qu'un éclair, un soupir plutôt deviné qu'aperçu, emportait le doux sentiment d'un cœur à l'autre. Si la conversation se tourne par hasard sur les convives, c'est communément dans un certain jargon de société dont il faut avoir la clé pour l'entendre. À l'aide de ce chiffre, on se fait réciproquement et selon le goût du temps, 1000 mauvaises plaisanteries, durant lesquelles le plus sot n'est pas celui qui brille le moins, tandis qu'un tiers mal instruit est réduit à l'ennui ou au silence, ou à rire de ce qu'il n'entend point. Voilà, hors le tête-à-tête, qui m'est et me sera toujours inconnu, tout ce qu'il y a de tendre et d'affectueux dans les liaisons de ce pays. Au milieu de tout cela, qu'un homme de poids avance un propos grave ou agite une question sérieuse, aussitôt l'attention commune se fixe à ce nouvel objet. Hommes, femmes, vieillards, jeunes gens, tout se prête à la considérer par toutes ses faces, et l'on est étonné du sens et de la raison qui sortent comme à l'envi de toutes ces têtes folâtres. Un point de morale ne serait pas mieux discuté dans une société de philosophes que dans celle d'une jolie femme de Paris. Les conclusions y seraient même souvent moins sévères, car le philosophe, qui veut agir comme il parle, y regarde à deux fois, mais ici, où toute la morale est un pur verbiage, on peut être austère sans conséquence. Et l'on ne serait pas fâché, pour rabattre un peu l'orgueil philosophique, de mettre la vertu si haut que le sage même n'y put atteindre. Au reste, hommes et femmes, tous instruits par l'expérience du monde, et surtout par leur conscience, se réunissent pour penser de leur espèce aussi mal qu'il est possible. Toujours philosophant tristement, toujours dégradant par vanité la nature humaine, toujours cherchant dans quelques vices la cause de tout ce qui se fait de bien, toujours d'après leur propre cœur médisant du cœur de l'homme. Malgré cette avilissante doctrine, un des sujets favoris de ces paisibles entretiens, c'est le sentiment. Mot par lequel il ne faut pas entendre un épanchement affectueux dans le sein de l'amour ou de l'amitié, ce serait d'une fadeur à mourir. C'est le sentiment, mis en grande maxime générale, et quintessencié par tout ce que la métaphysique a de plus subtil. Je puis dire n'avoir de ma vie ouï tant parler du sentiment, ni si peu compris ce qu'on en disait. Ce sont des raffinements inconcevables. Oh, Julie, nos cœurs grossiers n'ont jamais rien su de toutes ces belles maximes, et j'ai peur qu'il n'en soit du sentiment chez les gens du monde comme d'Homère chez les pédants qui lui forgent mille beautés chimériques, faute d'apercevoir les véritables. Ils dépensent ainsi tous leurs sentiments en esprit, et ils s'en exaltent tant dans le discours qu'il n'en reste plus pour la pratique. Heureusement, la bienséance y supplée, et l'on fait par usage à peu près les mêmes choses qu'on ferait par sensibilité. Du moins, tant qu'il n'en coûte que des formules et quelques gênes passagères qu'on s'impose pour bien faire parler de soi. Car quand les sacrifices vont jusqu'à gêner trop longtemps ou à coûter trop cher, adieu le sentiment. La bienséance n'en exige pas jusque-là. À cela près, on ne saurait croire à quel point tout est compassé, mesuré, pesé, dans ce qu'ils appellent des procédés. Tout ce qui n'est plus dans les sentiments, ils l'ont mis en règle et tout est réglé parmi eux. Ce peuple imitateur serait plein d'originaux qu'il serait impossible d'en rien savoir. Car nul homme n'ose être lui-même. Il faut faire comme les autres. C'est la première maxime de la sagesse du pays. Cela se fait, cela ne se fait pas. Voilà la décision suprême. Cette apparente régularité donne aux usages communs l'air du monde le plus comique, même dans les choses les plus sérieuses. On sait à point nommé quand il faut envoyer savoir des nouvelles, quand il faut se faire écrire, c'est-à-dire faire une visite qu'on ne fait pas, quand il faut la faire soi-même. Quand il est permis d'être chez soi, quand on doit n'y être pas, quoi qu'on y soit. Quelles offres l'on doit faire, quelles offres l'autre doit rejeter, quel degré de tristesse on doit prendre à telle ou telle mort, combien de temps on doit pleurer à la campagne, le jour où l'on peut revenir se consoler à la ville, l'heure et la minute où l'affliction permet de donner le bal ou d'aller au spectacle. Tout le monde y fait à la fois les mêmes choses dans la même circonstance. Tout va par le temps comme les évolutions d'un régiment en bataille. Vous diriez que ce sont autant de marionnettes clouées sur la même planche ou tirées par le même fil. Or, comme il n'est pas possible que tous ces gens font exactement la même chose, soient exactement affectés d'eux-mêmes, il est clair qu'il faut les pénétrer par d'autres moyens pour les connaître. Il est clair que tout ce jargon n'est qu'un vain formulaire et sert moins à juger des mœurs que du ton qui règne à Paris. On apprend ainsi les propos qu'on y tient, mais rien de ce qui peut servir à les apprécier. J'en dis autant de la plupart des écrits nouveaux, j'en dis autant de la scène même, qui depuis Molière est bien plus un lieu où se débitent de jolies conversations que la représentation de la vie civile. Il y a ici trois théâtres, sur deux desquels on présente des êtres chimériques, savoir sur l'un des arlequins, des pantalons, des scaramouches, sur l'autre des dieux, des diables et des sorciers. Sur le troisième, on représente ces pièces immortelles dont la lecture nous faisait tant de plaisir, et d'autres plus nouvelles qui paraissent de temps en temps sur la scène. Plusieurs de ces pièces sont tragiques, mais peu touchantes. Et si l'on trouve quelques sentiments naturels et quelques vrais rapports au cœur humain, elles n'offrent aucune sorte d'instruction sur les mœurs particulières du peuple qu'elles amusent. L'institution de la tragédie avait chez ses inventeurs un fondement de religion qui suffisait pour l'autoriser. D'ailleurs, elle offrait aux Grecs un spectacle instructif et agréable dans les malheurs des Perses, leurs ennemis, dans les crimes et les folies des rois dont ce peuple s'était délivré. Qu'on représente à Berne, à Zurich, à La Haye, l'ancienne tyrannie de la maison d'Autriche, l'amour de la patrie et de la liberté nous rendra ces pièces intéressantes. Mais qu'on me dise de quel usage sont ici les tragédies de Corneille, et ce qu'importe au peuple de Paris, Pompée ou Sertorius. Les tragédies grecques roulaient sur des événements réels ou réputés tels par les spectateurs, et fondées sur des traditions historiques. Mais que fait une flamme héroïque et pure dans l'âme des grands? Ne dirait-on pas que les combats de l'amour et de la vertu leur donnent souvent de mauvaises nuits, et que le cœur a beaucoup à faire dans les mariages des rois? Juge de la vraisemblance et de l'utilité de tant de pièces qui roulent toutes sur ce chimérique sujet. Quant à la comédie, il est certain qu'elle doit représenter au naturel les mœurs du peuple pour lequel elle est faite, afin qu'il s'y corrige de ses vices et de ses défauts, comme on ôte devant un miroir les taches de son visage. Térence et Plaute se trompèrent dans leurs objets, mais avant eux, Aristophane et Méandre avaient exposé aux Athéniens les mœurs athéniennes, et depuis, le seul Molière peignit plus naïvement encore celle des Français du siècle dernier à leurs propres yeux. Le tableau a changé, mais il n'est plus revenu de peintre. Maintenant, on copie au théâtre les conversations d'une centaine de maisons de Paris. Hors de cela, on n'y apprend rien des mœurs des Français. Il y a dans cette grande ville 500 000 âmes dont il n'est jamais question sur la scène. Molière osa peindre des bourgeois et des artisans aussi bien que des marquis. Socrate faisait parler des cochers, menuisiers, cordonniers, maçons. Mais les auteurs d'aujourd'hui, qui sont des gens d'un autre air, se croiraient déshonorés s'ils savaient ce qui se passe au comptoir d'un marchand ou dans la boutique d'un ouvrier. Il ne leur faut que des interlocuteurs illustres, et ils cherchent dans le rang de leurs personnages l'élévation qu'ils ne peuvent tirer de leur génie. Les spectateurs eux-mêmes sont devenus si délicats qu'ils craindraient de se compromettre à la comédie comme en visite, et ne daigneraient pas aller voir en représentation des gens de moindre condition qu'eux. Ils sont comme les seuls habitants de la terre. Tout le reste n'est rien à leurs yeux. Avoir un carrosse, un Suisse, un maître d'hôtel, c'est être comme tout le monde. Pour être comme tout le monde, il faut être comme très peu de gens. Ceux qui vont à pied ne sont pas du monde. Ce sont des bourgeois, des hommes du peuple, des gens de l'autre monde. Et l'on dirait qu'un carrosse n'est pas tant nécessaire pour se conduire que pour exister. Il y a comme cela une poignée d'impertinents qui ne comptent qu'eux dans tout l'univers, et ne valent guère la peine qu'on les compte, si ce n'est pour le mal qu'ils font. C'est pour eux uniquement que sont faits les spectacles. Ils s'y montrent à la fois comme représentés au milieu du théâtre et comme représentants des deux côtés. Ils sont personnages sur la scène et comédiens sur les bancs. C'est ainsi que la sphère du monde et des auteurs se rétrécit. C'est ainsi que la scène moderne ne quitte plus son ennuyeuse dignité. On n'y sait plus montrer les hommes qu'en habits dorés. Vous diriez que la France n'est peuplée que de comtes et de chevaliers. Et plus le peuple y est misérable et gueux, plus le tableau du peuple y est brillant et magnifique. Cela fait qu'en peignant le ridicule des États qui servent d'exemple aux autres, on le répand plutôt que de l'éteindre, et que le peuple, toujours singe et imitateur des riches, va moins au théâtre pour rire de leur folie que pour les étudier, de devenir encore plus fou qu'eux en les imitant. Voilà de quoi fut cause Molière lui-même. Il corrigea la cour en infectant la ville, et ces ridicules marquis font le premier modèle des petits maîtres bourgeois qui leur succédèrent. En général, il y a beaucoup de discours et peu d'actions sur la scène française. Peut-être est-ce qu'en effet, le français parle encore plus qu'il n'agit, ou du moins qu'il donne un bien plus grand prix à ce qu'on dit qu'à ce qu'on fait. Quelqu'un disait, en sortant d'une pièce de Denis le Tyran, « Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu force paroles. » Voilà ce qu'on peut dire en sortant des pièces françaises. Racine et Corneille, avec tout leur génie, ne sont eux-mêmes que des parleurs. Et leur successeur est le premier qui, à l'imitation des Anglais, ait osé mettre quelquefois la scène en représentation. Communément, tout se passe en beau dialogue bien agencé, bien ronflant, où l'on voit d'abord que le premier soin de chaque interlocuteur est toujours celui de briller. Presque tous s'énoncent en maxime générale. Quelques agités qu'ils puissent être, ils songent toujours plus au public qu'à eux-mêmes. Une sentence leur coûte moins qu'un sentiment. Les pièces de Racine et de Molière exceptées, le « je » est presque aussi scrupuleusement banni de la scène française que les écrits de Port-Royal, et les passions humaines, aussi modestes que l'humilité chrétienne, n'y parlent jamais que par « on ». Il y a encore une certaine dignité maniérée dans le geste et dans le propos, qui ne permet jamais à la passion de parler exactement son langage, ni à l'auteur de revêtir son personnage et de se transporter au lieu de la scène, mais le tient toujours enchaîné sur le théâtre et sous les yeux des spectateurs. Aussi, les situations les plus vives ne lui font-elles jamais oublier un bel arrangement de phrases ni des attitudes élégantes. Et si le désespoir lui plonge un poignard dans le cœur, non content d'observer la décence en tombant comme Polixène, il ne tombe point. La décence le maintient debout après sa mort, et tous ceux qui viennent d'expirer s'en retournent l'instant d'après sur leurs jambes. Tout cela vient de ce que le français ne cherche point sur la scène le naturel et l'illusion, et n'y veut que de l'esprit et des pensées. Il fait cas de l'agrément et non de l'imitation. Il ne se soucie pas d'être séduit pourvu qu'on l'amuse. Personne ne va au spectacle pour le plaisir du spectacle, mais pour voir l'assemblée, pour en être vu, pour ramasser de quoi fournir au caquet après la pièce. Et l'on ne change à ce qu'on voit que pour savoir ce qu'on en dira. L'acteur, pour eux, est toujours l'acteur, jamais le personnage qu'il représente. Cet homme qui parle en maître du monde n'est point Auguste, c'est Baron. La veuve de Pompée est Adrienne. Alzire est Mademoiselle Gaussin. Et ce fier sauvage est Grandval. Les comédiens, de leur côté, négligent entièrement l'illusion dont ils voient que personne ne se soucie. Ils placent les héros de l'Antiquité entre six rangs de jeunes Parisiens. Ils calquent les modes françaises sur l'habit romain. On voit Cornélie en pleurs, avec deux doigts de rouge, Caton poudré au blanc et Brutus en panier. Tout cela ne choque personne et ne fait rien au succès des pièces. Comme on ne voit que l'acteur dans le personnage, on ne voit non plus que l'auteur dans le drame. Et si le costume est négligé, cela se pardonne aisément, car on sait bien que Corneille n'était pas tailleur, ni Crébillon perruquier. Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, tout ici n'est que babille, jargon, propos sans conséquence. Sur la scène comme dans le monde, on a beau écouter ce qui se dit, on n'apprend rien de ce qui se fait. Et qu'a-t-on besoin de l'apprendre? Sitôt qu'un homme a parlé, s'informe-t-on de sa conduite? N'a-t-il pas tout fait? N'est-il pas jugé? L'honnête homme d'ici n'est point celui qui fait de bonnes actions, mais celui qui dit de belles choses. Et un seul propos inconsidéré, lâché sans réflexion, peut faire à celui qui le tient un tort irréparable, que n'effacera pas 40 ans d'intégrité. En un mot, bien que les œuvres des hommes ne ressemblent guère à leurs discours, je vois qu'on ne les peint que par leurs discours, sans égard à leurs œuvres. Je vois aussi que dans une grande ville, la société paraît plus douce, plus facile, plus sûre même que parmi des gens moins étudiés. Mais les hommes y sont-ils en effet plus humains, plus modérés, plus justes? Je n'en sais rien. Ce ne sont encore là que des apparences. Et sous ces dehors si ouverts et si agréables, les cœurs sont peut-être plus cachés, plus enfoncés en dedans que les nôtres. Étrangers, isolés, sans affaires, sans liaison, sans plaisir, et ne voulant m'en rapporter qu'à moi, le moyen de pouvoir prononcer. Cependant, je commence à sentir l'ivresse où cette vie agitée et tumultueuse plonge ceux qui la mènent, et je tombe dans un étourdissement semblable à celui d'un homme aux yeux duquel on fait passer rapidement une multitude d'objets. Aucun de ceux qui me frappent n'attache mon cœur, mais tous ensemble en troublent et suspendent les affections, au point d'en oublier quelques instants ce que je suis et à qui je suis. Chaque jour, en sortant de chez moi, j'enferme mes sentiments sous la clé pour en prendre d'autres qui se prêtent aux frivoles objets qui m'attendent. Insensiblement, je juge et raisonne comme j'entends juger et raisonner tout le monde. Si quelquefois j'essaye de secouer les préjugés et de voir les choses comme elles sont, à l'instant je suis écrasé d'un certain verbiage qui ressemble beaucoup à du raisonnement. On me prouve avec évidence qu'il n'y a que le demi-philosophe qui regarde à la réalité des choses, que le vrai sage ne les considère que par les apparences, qu'il doit prendre les préjugés pour principe, les bienséances pour loi, et que la plus sublime sagesse consiste à vivre comme les fous. Forcé de changer ainsi l'ordre de mes affections morales, forcé de donner un prix à des chimères, et d'imposer silence à la nature et à la raison, je vois ainsi défigurer ce divin modèle que je porte au-dedans de moi, et qui servait à la fois d'objet à mes désirs et de règle à mes actions. Je flotte de caprice en caprice, et mes goûts étant sans cesse asservis à l'opinion, je ne puis être sûr un seul jour de ce que j'aimerais le lendemain. Confus, humilié, consterné de sentir dégrader en moi la nature de l'homme et de me voir ravalé si bas par cette grandeur intérieure où nos cœurs enflammés s'élevaient réciproquement, je reviens le soir, pénétré d'une secrète tristesse, accablé d'un dégoût mortel, et le cœur vide et gonflé comme un ballon rempli d'air. Ô amour ! Ô pur sentiment que je tiens de lui ! Avec quel charme je rentre en moi-même ! Avec quel transport j'y retrouve encore mes premières affections et ma première dignité ! Combien je m'applaudis d'y revoir briller dans tout son éclat l'image de la vertu, d'y contempler la tienne, ô Julie, assise sur un trône de gloire et dissipant d'un souffle tous ses prestiges. Je sens respirer mon âme oppressée. Je crois avoir recouvré mon existence et ma vie, et je reprends avec mon amour tous les sentiments sublimes qui le rendent digne de son objet.
Lettre 18 de Julie à Saint-Preux.
Je viens, mon bon ami, de jouir d'un des plus doux spectacles qui puissent jamais charmer mes yeux. La plus sage, la plus aimable des filles est enfin devenue la plus digne et la meilleure des femmes. L'honnête homme dont elle a comblé les vœux, plein d'estime et d'amour pour elle, ne respire que pour la chérir, l'adorer, la rendre heureuse, et je goûte le charme inexprimable d'être témoin du bonheur de mon ami, c'est-à-dire de le partager. Tu n'y seras pas moins sensible, j'en suis bien sûre, toi qu'elle aima toujours si tendrement, toi qui lui fus chère presque dès son enfance, et à qui tant de bienfaits l'ont dû rendre encore plus chère. Oui, tous les sentiments qu'elle éprouve se font sentir à nos cœurs comme aux siens. S'ils sont des plaisirs pour elle, ils sont pour nous des consolations, et tel est le prix de l'amitié qui nous joint, que la félicité d'un des trois suffit pour adoucir les maux des deux autres. Ne nous dissimulons pas pourtant que cet ami incomparable va nous échapper en partie. La voilà dans un nouvel ordre de choses, la voilà sujette à de nouveaux engagements, à de nouveaux devoirs, et son cœur, qui n'était qu'à nous, se doit maintenant à d'autres affections auxquelles il faut que l'amitié cède le premier rang. Il y a plus, mon ami. Nous devons de notre part devenir plus scrupuleux sur les témoignages de son zèle. Nous ne devons pas seulement consulter son attachement pour nous et le besoin que nous avons d'elle, mais ce qui convient à son nouvel état et ce qui peut agréer ou déplaire à son mari. Nous n'avons pas besoin de chercher ce qu'exigerait en pareil cas la vertu. Les lois seules de l'amitié suffisent. Celui qui, pour son intérêt particulier, pourrait compromettre un ami, mériterait-il d'en avoir? Quand elle était fille, elle était libre, elle n'avait à répondre de ses démarches qu'à elle-même, et l'honnêteté de ses intentions suffisait pour la justifier à ses propres yeux. Elle nous regardait comme deux époux destinés l'un à l'autre, et son cœur sensible et pur, alliant la plus chaste pudeur pour elle-même, à la plus tendre compassion pour sa coupable amie, elle couvrait ma faute sans la partager. Mais à présent, tout est changé. Elle doit compte de sa conduite à un autre. Elle n'a pas seulement engagé sa foi, elle a aliéné sa liberté. Dépositaire en même temps de l'honneur de deux personnes, il ne lui suffit pas d'être honnête, il faut encore qu'elle soit honorée. Il ne lui suffit pas de ne rien faire que de bien, il faut encore qu'elle ne fasse rien qui ne soit approuvé. Une femme vertueuse ne doit pas seulement mériter l'estime de son mari, mais l'obtenir. S'il la blâme, elle est blâmable, et fût-elle innocente, elle a tort, sitôt qu'elle est soupçonnée, car les apparences mêmes sont au nombre de ses devoirs. Je ne vois pas clairement si toutes ces raisons sont bonnes, tu en seras le juge, mais un certain sentiment intérieur m'avertit qu'il n'est pas bien que ma cousine continue d'être ma confidente, ni qu'elle me le dise la première. Je me suis souvent trouvée en faute sur mes raisonnements, jamais sur les mouvements secrets qui me les inspirent, et cela fait que j'ai plus de confiance à mon instinct qu'à ma raison. Sur ce principe, j'ai déjà pris un prétexte pour retirer tes lettres que la crainte d'une surprise me faisait tenir chez elle. Elle me les a rendues avec un serrement de cœur que le mien m'a fait apercevoir et qui m'a trop confirmé que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Nous n'avons point eu d'explication, mais nos regards en tenaient lieu. Elle m'a embrassé en pleurant. Nous sentions, sans nous rien dire, combien le tendre langage de l'amitié a peu besoin du secours des paroles. À l'égard de l'adresse à substituer à la sienne, j'avais songé d'abord à celle de Fanchon-Hannay, et c'est bien la voie la plus sûre que nous pourrions choisir. Mais si cette jeune femme est dans un rang plus bas que ma cousine, est-ce une raison d'avoir moins d'égard pour elle en ce qui concerne l'honnêteté? N'est-il pas à craindre au contraire que des sentiments moins élevés ne lui rendent mon exemple plus dangereux, que ce qui n'était pour l'une que l'effort d'une amitié sublime ne soit pour l'autre un commencement de corruption, et qu'en abusant de sa reconnaissance, je ne force la vertu même à servir d'instrument au vice? Ah, n'est-ce pas assez pour moi d'être coupable, sans me donner des complices, et sans aggraver mes fautes du poids de celles d'autrui? N'y pensons point, mon ami. J'ai imaginé un autre expédient, beaucoup moins sûr à la vérité, mais aussi moins répréhensible, en ce qu'il ne compromet personne et ne nous donne aucun confident. C'est de m'écrire sous un nom en l'air, comme par exemple Monsieur du Bosquet, et de me mettre une enveloppe adressée à Reggianino, que j'aurai soin de prévenir. Ainsi, Reggianino lui-même ne saura rien, il n'aura tout au plus que des soupçons, qu'il n'oserait vérifier, car Milord Edward, de qui dépend sa fortune, m'a répondu de lui. Tandis que notre correspondance continuera par cette voie, je verrai si l'on peut reprendre celle qui nous servit durant le voyage de Valais, ou quelque autre qui soit permanente et sûre. Quand je ne reconnaîtrai pas l'état de ton cœur, je m'apercevrai, par l'humeur qui règne dans tes relations, que la vie que tu mènes n'est pas de ton goût. Les lettres de M. Murat, dont on s'est plaint en France, étaient moins sévères que les tiennes. Comme un enfant qui se dépite contre ses maîtres, tu te venges d'être obligé d'étudier le monde sur les premiers qui te l'apprennent. Ce qui me surprend le plus est que la chose qui commence par te révolter est celle qui prévient tous les étrangers, savoir l'accueil des Français et le ton général de leur société, quoique de ton propre aveu tu doives personnellement t'en louer. Je n'ai pas oublié la distinction de Paris en particulier et d'une grande ville en général, mais je vois qu'ignorant ce qui convient à l'un ou à l'autre, tu fais ta critique à bon compte, avant de savoir si c'est une médisance ou une observation. Quoi qu'il en soit, j'aime la nation française, et ce n'est pas m'obliger que d'en mal parler. Je dois aux bons livres qui nous viennent d'elle la plupart des instructions que nous avons prises ensemble. Si notre pays n'est plus barbare, à qui en avons-nous l'obligation? Les deux plus grands, les deux plus vertueux des modernes, Catinat, Fénelon, étaient tous deux français. Henri IV, le roi que j'aime, le bon roi, l'était. Si la France n'est pas le pays des hommes libres, elle est celui des hommes vrais, et cette liberté vaut bien l'autre aux yeux du sage. Hospitalier, protecteur de l'étranger, les Français lui passent même la vérité qui les blesse, et l'on se ferait lapider à Londres si l'on y osait dire des Anglais la moitié du mal que les Français laissent dire d'eux à Paris. Mon père, qui a passé sa vie en France, ne parle qu'avec transport de ce bon et aimable peuple. S'il y a versé son sang au service du prince, le prince ne l'a point oublié dans sa retraite, et l'honore encore de ses bienfaits. Ainsi, je me regarde comme intéressée à la gloire d'un pays où mon père a trouvé la sienne. Mon ami, si chaque peuple a ses bonnes et mauvaises qualités, honore au moins la vérité qui loue, aussi bien que la vérité qui blâme. Je te dirai plus. Pourquoi perdrais-tu en visite oisive le temps qui te reste à passer au lieu où tu es? Paris est-il moins que Londres le théâtre des talents, et les étrangers y font-ils moins aisément leur chemin? Crois-moi, tous les Anglais ne sont pas des Lord Edward, et tous les Français ne ressemblent pas à ces beaux diseurs qui te déplaisent si fort. Tente, essaye, fais quelques épreuves, ne fût-ce que pour approfondir les mœurs, et juger à l'œuvre ces gens qui parlent si bien. Le père de ma cousine dit que tu connais la constitution de l'Empire et les intérêts des princes, mais Lord Edward trouve aussi que tu n'as pas mal étudié les principes de la politique et les divers systèmes de gouvernement. J'ai dans la tête que les pays du monde où le mérite est le plus honoré est celui qui te convient le mieux, et que tu n'as besoin que d'être connu pour être employé. Quant à la religion, pourquoi la tienne te nuirait-elle plus qu'à un autre? La raison n'est-elle pas le préservatif de l'intolérance et du fanatisme? Est-on plus bigot en France qu'en Allemagne? Et qui t'empêcherait de pouvoir faire à Paris le même chemin que monsieur de Saint-Saphorin a fait à Vienne? Si tu considères le but, les plus prompts essais ne doivent-ils pas accélérer les succès? Si tu compares les moyens, n'est-il pas plus honnête encore de s'avancer par ses talents que par ses amis? Si tu songes, ah, cette mer, un plus long trajet, j'aimerais mieux l'Angleterre si Paris était au-delà. À propos de cette grande ville, oserais-je relever une affectation que je remarque dans tes lettres? Toi qui me parlais des Valaisannes avec tant de plaisir, pourquoi ne me dis-tu rien des Parisiennes? Ces femmes galantes et célèbres valent-elles moins la peine d'être dépeintes que quelques montagnardes simples et grossières? Crains-tu peut-être de me donner de l'inquiétude par le tableau des plus séduisantes personnes de l'univers? Désabuse-toi, mon ami. Ce que tu peux faire de pis pour mon repos est de ne me point parler d'elles. Et, quoi que tu m'en puisses dire, ton silence à leur égard m'est beaucoup plus suspect que tes éloges. Je serais bien aise aussi d'avoir un petit mot sur l'opéra de Paris, dont on dit ici des merveilles, car enfin, la musique peut être mauvaise, et le spectacle avoir ses beautés. S'il n'en a pas, c'est un sujet pour ta médisance, et du moins tu n'offenseras personne. Je ne sais si c'est la peine de te dire qu'à l'occasion de la noce, il m'est encore venu ces jours passés deux épouseurs comme par rendez-vous. L'un d'Yverdun, gitan, chassant de château en château, l'autre du pays allemand, par le coche de Berne. Le premier est une manière de petit maître, parlant assez résolument pour faire trouver ses réparties spirituelles à ceux qui n'en écoutent que le ton. L'autre est un grand nigaud timide, non de cette aimable timidité qui vient de la crainte de déplaire, mais de l'embarras d'un sot qui ne sait que dire, et du malaise d'un libertin qui ne sent pas à sa place auprès d'une honnête jeune fille. Sachant très positivement les intentions de mon père au sujet de ces deux messieurs, j'eus avec plaisir de la liberté qu'il me laisse de les traiter à ma fantaisie, et je ne crois pas que cette fantaisie laisse durer longtemps celle qui les amène. Je les hais d'oser attaquer un cœur où tu règnes, sans armes pour te le disputer. S'ils en avaient, je les haïrais davantage encore. Mais où les prendraient-ils, eux? Et d'autres, et tout l'univers? Non, non, sois tranquille, mon aimable ami. Quand je retrouverai un mérite égal au tien, quand il se présenterait un autre que toi-même, encore le premier venu serait-il le seul écouté. Ne t'inquiète donc point de ces deux espèces dont je daigne à peine te parler. Quel plaisir j'aurais à leur mesurer deux doses de dégoût, si parfaitement égales qu'ils prissent la résolution de partir ensemble comme ils sont venus, et que je puisse t'apprendre à la fois le départ de tous deux. Monsieur de Crouzas vient de nous donner une réfutation des épîtres de Pope, que j'ai lue avec ennui. Je ne sais pas au vrai lequel des deux auteurs a raison, mais je sais bien que le livre de Monsieur Crouzas ne fera jamais faire une bonne action, et qu'il n'y a rien de bon qu'on ne soit tenté de faire en quittant celui de Pope. Je n'ai point pour moi d'autre manière de juger de mes lectures que de sonder les dispositions où elles laissent mon âme, et j'imagine à peine quelle sorte de bonté peut avoir un livre qui ne porte point ses lecteurs au bien. Adieu, mon trop cher ami, je ne voudrais pas finir si tôt, mais on m'attend, on m'appelle. Je te quitte à regret, car je suis gaie, et j'aime à partager avec toi mes plaisirs. Ce qui les anime et les redouble est que ma mère se trouve mieux depuis quelques jours. Elle s'est sentie assez de force pour assister au mariage et servir de mère à sa nièce, ou plutôt à sa seconde fille. La pauvre Claire Anne a pleuré de joie. Juge de moi, qui, méritant si peu de la conserver, tremble toujours de la perdre. En vérité, elle fait les honneurs de la fête avec autant de grâce que dans sa plus parfaite santé. Il semble même qu'un reste de langueur rende sa naïve politesse encore plus touchante. Non, jamais cette incomparable mère ne fut si bonne, si charmante, si digne d'être adorée. Sais-tu qu'elle a demandé plusieurs fois de tes nouvelles à Monsieur d'Orbe? Quoiqu'elle ne me parle point de toi, je n'ignore pas qu'elle t'aime, et que, si jamais elle était écoutée, ton bonheur et le mien seraient son premier ouvrage. Ah, si ton cœur sait être sensible, qu'il a besoin de l'être et qu'il a de dettes à payer.
Lettre 19. De Saint-Preux à Julie.
Tiens, ma Julie, gronde-moi, querelle-moi, bats-moi, je souffrirai tout, mais je n'en continuerai pas moins à te dire ce que je pense. Qui sera le dépositaire de tous mes sentiments, si ce n'est pas toi qui les éclaire? Et avec qui mon cœur se permettrait-il de parler si tu refusais de l'entendre? Quand je te rends compte de mes observations et de mes jugements, c'est pour que tu les corriges, non pour que tu les approuves. Et plus je puis commettre d'erreurs, plus je dois me presser de t'en instruire. Si je blâme les abus qui me frappent dans cette grande ville, je ne m'en excuserai point sur ce que je t'en parle en confidence. Car je ne dis jamais rien d'un tiers que je ne sois prêt à lui dire en face. Et dans tout ce que j'écris des Parisiens, je ne fais que répéter ce que je leur dis tous les jours à eux-mêmes. Ils ne m'en savent point mauvais gré. Ils conviennent de beaucoup de choses. Ils se plaignaient de notre Muralte. Je le crois bien. On voit, on sent combien il les hait, jusque dans les éloges qu'il leur donne. Et je me suis bien trompé si, même dans ma critique, on aperçoit le contraire. L'estime et la reconnaissance que m'inspire leur bonté ne font qu'augmenter ma franchise. Elle peut n'être pas utile à quelques-uns, et à la manière dont tous supportent la vérité dans ma bouche, j'ose croire que nous sommes dignes, eux de l'entendre et moi de la dire. C'est en cela, ma Julie, que la vérité qui blâme est plus honorable que la vérité qui loue. Car la louange ne sert qu'à corrompre ceux qui la goûtent, et les plus indignes en sont toujours les plus affamés. Mais la censure est utile, et le mérite seul sait la supporter. Je te le dis du fond de mon cœur, j'honore le français comme le seul peuple qui aime véritablement les hommes et qui soit bienfaisant par caractère. Mais c'est pour cela même que je suis moins disposé à lui accorder cette admiration générale à laquelle il prétend même pour les défauts qu'il avoue. Si les Français n'avaient point de vertu, je n'en dirais rien. S'ils n'avaient point de vice, ils ne seraient pas hommes. Ils ont trop de côtés louables pour être toujours loués. Quant aux tentatives dont tu me parles, elles me sont impraticables, parce qu'il faudrait employer pour les faire des moyens qui ne me conviennent pas, et que tu m'as interdit toi-même. L'austérité républicaine n'est pas de mise dans ce pays. Il y faut des vertus plus flexibles et qui sachent mieux se plier aux intérêts des amis et des protecteurs. Le mérite est honoré, j'en conviens. Mais ici, les talents qui mènent à la réputation ne sont point ceux qui mènent à la fortune. Et quand j'aurai le malheur de posséder ces derniers, Julie se résoudrait-elle à devenir la femme d'un parvenu? En Angleterre, c'est tout autre chose. Et quoique les mœurs y vaillent peut-être encore moins qu'en France, cela n'empêche pas qu'on y puisse parvenir par des chemins plus honnêtes. Parce que le peuple, ayant plus de part au gouvernement, l'estime publique y est un plus grand moyen de crédit. Tu n'ignores pas que le projet de Milord Édouard est d'employer cette voie en ma faveur, et le mien de justifier son zèle. Le lieu de la terre où je suis le plus loin de toi est celui où je ne puis rien faire qui m'en rapproche. Oh Julie, s'il est difficile d'obtenir ta main, il l'est bien plus de la mériter, et voilà la noble tâche que l'amour m'impose. Tu m'ôtes une grande peine en me donnant de meilleures nouvelles de ta mère. Je t'envoyais déjà si inquiète avant mon départ que je n'osais te dire ce que j'en pensais, mais je la trouve maigrie, changée, et je redoutais quelques maladies dangereuses. Conservez-la-moi. Parce qu'elle m'est chère, parce que mon cœur l'honore, parce que ses bontés font mon unique espérance, et surtout parce qu'elle est mère de ma Julie. Je te dirai sur les deux épouseurs que je n'aime point ce mot, même par plaisanterie. Du reste, le ton dont tu me parles d'eux m'empêche de les craindre, et je ne hais plus ces infortunés puisque tu crois les haïr. Mais j'admire ta simplicité de penser connaître la haine. Ne vois-tu pas que c'est l'amour dépité que tu prends pour elle? Ainsi murmure la blanche colombe dont on poursuit le bien-aimé. Va, Julie, va, fille incomparable. Quand tu pourras haïr quelque chose, je pourrai cesser de t'aimer. Post-scriptum. Que je te plains d'être obsédé par ces deux importuns. Pour l'amour de toi-même, hâte-toi de les renvoyer.
Lettre 20 de Julie à Saint-Preux.
Mon ami, j'ai remis à Monsieur d'Orbe un paquet qu'il s'est chargé de t'envoyer à l'adresse de Monsieur Sylvestre, chez qui tu pourras le retirer. Mais je t'avertis d'attendre pour l'ouvrir, que tu sois seul et dans ta chambre. Tu trouveras dans ce paquet un petit meuble à ton usage. C'est une espèce d'amulette que les amants portent volontiers. La manière de s'en servir est bizarre. Il faut la contempler tous les matins un quart d'heure jusqu'à ce qu'on se sente pénétré d'un certain attendrissement. Alors on l'applique sur ses yeux, sur sa bouche et sur son cœur. Cela sert, dit-on, de préservatif durant la journée contre le mauvais air du pays galant. On attribue encore à ces sortes de talismans une vertu électrique très singulière, mais qui n'agit qu'entre les amants fidèles. C'est de communiquer à l'un l'impression des baisers de l'autre à plus de 100 lieues de là. Je ne garantis pas le succès de l'expérience, je sais seulement qu'il ne tient qu'à toi de la faire. Tranquillise-toi sur les deux galants ou prétendants, ou comme tu voudras les appeler, car désormais le nom ne fait plus rien à la chose. Ils sont partis, qu'ils aillent en paix. Depuis que je ne les vois plus, je ne les hais plus. »